Vous écoutez, on lit pour vous.
Moi de l'histoire des Noirs, personnalité remarquable. Un texte de Patrimoine canadien paru sur le site du gouvernement du Canada. Voici 9 biographies de personnes noires au Canada qui ont contribué de façon remarquable à façonner le patrimoine et l'identité du Canada. D'hier à aujourd'hui, elles s'inscrivent parmi les personnes les plus influentes sur le plan du bien-être et de la prospérité de notre pays. 1. Docteur Dominique Gaspard, 1884-1938. L'histoire hors du commun du docteur Dominique François Gaspard met en lumière la diversité religieuse, linguistique et ethno-culturelle des personnes d'ascendance africaine au début du XXe siècle au Canada. Contrairement à la plupart des Afro-Américains de l'époque au Québec, Gaspard est né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans une famille afro-française créole. Il mène une vie axée sur le service qui fait le pont entre les barrières que sont l'origine ethnique, la langue et la classe, s'engageant dans le corps médical de l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale, puis en ouvrant un cabinet médical à Montréal où tout le monde peut recevoir des soins. Il apparaît comme un homme très instruit, bilingue et catholique, au sein d'une communauté largement anglophone et ouvrière, ce qui ajoute complexité et nuance à la compréhension de l'histoire des Noirs. Dominique et son frère jumeau, Barthélemy, parfois appelé Barthélemy, sont nés le 22 décembre 1884 à la Nouvelle-Orléans de parents prénommés Esther et John. En 1905, Gaspard quitte la Nouvelle-Orléans pour aller étudier au séminaire de Saint-Hyacinthe, situé à environ 60 km à l'est de Montréal, au Québec. L'une des premières écoles secondaires du Québec, le séminaire accueille des élèves d'ascendance africaine depuis les années 1860. En 1910, Gaspard publie le récit des expériences des étudiants catholiques afro-américains, un rare témoignage de cette époque. Gaspard obtient son diplôme en 1911 et songe à s'engager dans l'ordre des Dominicains avant de s'inscrire en médecine en 1912 à l'Université Laval, à Montréal. Pendant la Première Guerre mondiale, Gaspard interrompt ses études pour s'enrôler dans le corps expéditionnaire canadien. De mars 1915 à juillet 1917, il travaille à l'hôpital fixe numéro 4, qui devient l'hôpital général numéro 8, lequel relève du corps de santé de l'armée canadienne. Il est l'un des 103 membres de l'hôpital fixe numéro 4 qui monte à bord du SS Victoria pour se rendre en France en novembre 1915. Ceux-ci s'installent sur l'ancien champ de course de Saint-Cloud, en périphérie de Paris, et commencent à construire leurs installations, à creuser des tranchées pour les eaux usées et à bâtir des huttes en bois auxquelles ils donnent le nom de lieux canadiens. Gaspard est promu au rang de caporal, puis de sergent, et en avril 1917, il reçoit la médaille des épidémies du ministère de la Guerre de la France. Il travaille à l'hôpital général numéro 8 jusqu'en juillet 1917, lorsqu'il revient au Canada pour terminer ses études en médecine. Gaspard obtient son diplôme de l'Université Laval au printemps 1918 et vit le reste de ses jours dans la région de Montréal au sein de la première génération avant-gardiste de médecins d'ascendance africaine. Il joue un rôle actif dans la communauté, se joignant à la congrégation de l'Union United Church et à la section locale de l'Universal Negro Improvement Association en 1920. Il contribue à la fondation du Negro Community Center avec sa femme Ethel May Lyons en 1927 et à la Colored War Veterans Legion, Québec numéro 50, en 1935. Première et unique filiale de la Légion exclusivement destinée aux anciens combattants canadiens d'ascendance africaine. Elle est renommée la filiale 50 Dr. Gaspard de la Légion royale canadienne en son honneur en 1953. Gaspard s'éteint le 6 février 1938 des suites d'une brève maladie. 2. Dr. Daniel Grafton Hill, 1923-2003. Daniel Grafton Hill était un pionnier et un éminent spécialiste des droits de la personne, un historien et un fonctionnaire. Il est né à Independence, dans le Missouri, le 23 novembre 1923. Il a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et est diplômé de l'Université Howard à Washington, D.C. En juin 1953, le lendemain de son mariage interracial avec Donna Hill aux États-Unis, Daniel et sa conjointe s'installent définitivement à Toronto, où ils élèvent une famille et passent le reste de leur vie. Daniel Hill a obtenu une maîtrise et un doctorat en sociologie à l'Université de Toronto. Monsieur Hill était un fervent défenseur des droits de la personne. Il a été directeur de la Commission ontarienne des droits de la personne de 1962 à 1971 et en a été son premier président noir, 1971-1973. En 1978, il a cofondé le Ontario Black History Society avec sa femme Donna Hill et d'autres collègues. Il s'agit de la première organisation publique d'importance au Canada qui se consacre à l'histoire des Noirs dans le pays. Le dévouement de M. Hill à la justice sociale s'est encore illustré par son travail en tant qu'Ombudsman de l'Ontario, poste qu'il a occupé de 1984 jusqu'à sa retraite en 1989. Tout au long de sa vie, M. Hill a publié plusieurs ouvrages sur les droits de la personne et l'histoire des Noirs, dont « Human Rights in Canada » et « Focus on Racism » et « The Freedom Seekers, Black and Early Canada ». Son travail lui a valu de nombreuses distinctions. Il a été décoré de l'Ordre de l'Ontario en 1993 et a été fait officier de l'Ordre du Canada en 1999. Daniel et Donna Hill ont eu 3 enfants. Le chanteur-compositeur Dan Hill et les écrivains Lawrence Hill et Karen Hill. Avec son épouse Donna, les contributions de Daniel Hill aux droits de la personne, à l'histoire des Noirs et à la justice sociale ont laissé une empreinte durable sur la société canadienne. 3. Harry Winston Jerome, 1940-1982. Dans les années 1960, pendant une carrière de sprinter exceptionnellement longue, Harry Jerome a atteint et élevé le niveau des courses de vitesse de façon constante. Il a égalé ou établi de nombreux records canadiens en sprint ainsi que plusieurs records du monde, notamment au 100 mètres, au 100 verges, au 60 verges et au relais 4 fois 110 verges. Il a été le premier sprinter à détenir le record du monde à la fois au 100 verges et au 100 mètres, record dont il était co-détenteur. Et pendant presque toute une décennie, son nom a figuré sur la courte liste des hommes les plus rapides au monde. Un des rares athlètes à avoir véritablement incarné l'athlétisme canadien au cours des années 1960, Jerome a mis son statut d'icône au service du bien commun en apportant une contribution appréciable au développement et à la promotion du sport amateur et de la bonne forme physique au Canada, tout au long des années 1970 et au début des années 1980. Sa détermination et sa persévérance sont un objet de fierté pour de nombreux Afro-Canadiens et un modèle pour tous les Canadiens. Harry Jerome voit le jour à Prince Albert, en Saskatchewan, le 30 septembre 1940. Toutefois, sa famille déménage à Winnipeg, puis à North Vancouver, vers la fin de l'année 1952. Jerome est un athlète passionné et excelle au football, au hockey et au baseball, mais pendant ses études secondaires. Son entraîneur d'athlétisme le convainc que son avenir réside dans le sprint. Jérôme représente le Canada aux Jeux olympiques de 1960, de 1964 et de 1968, aux Jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth de 1962 et de 1966 et aux Jeux panaméricains de 1959 et de 1967. Malheureusement, deux blessures graves l'éloignent de son but alors qu'il amorce à peine sa carrière d'amateur sur la scène internationale. Jérôme persévère malgré les blessures et en 1964, il retourne à la compétition de haut niveau, plus fort que jamais. De 1964 à 1967 inclusivement, il accède à chaque année au podium du 100 mètres au cours des rencontres d'athlétisme international majeur et remporte 2 médailles de bronze et 2 médailles d'or. Jérôme se retire de la compétition sportive de haut niveau après les Jeux olympiques de 1968. Il se joint alors à la direction de la santé et du sport amateur du gouvernement fédéral, aujourd'hui Sport Canada. Par la suite, Jérôme conçoit et dirige le Premier Sport Award Program de la Colombie-Britannique. De l'avis de plusieurs personnes, il s'agit là de son plus précieux legs. Ce programme continue de fournir du matériel pédagogique, de tenir des cliniques de formation et d'attribuer des prix dans le but d'améliorer l'éducation physique. Plus 1 million d'enfants ont reçu des médailles en vertu de ce programme. Jérôme meurt subitement d'un anévrisme au cerveau le 7 décembre 1982. Sa carrière inspirante lui aura toutefois valu de nombreux honneurs tant au cours de sa vie qu'après sa mort. Vous écoutez, Moi de l'histoire des Noirs, personnalité remarquable, un texte de patrimoine canadien paru sur le site du gouvernement du Canada. 4. Dr. B. Denham Jolly. Denham Jolly est une personnalité éminente de la communauté noire de Toronto, connue pour sa réussite en tant qu'entrepreneur, éditeur et auteur, philanthrope et militant des droits civiques. Jolly a commencé sa carrière d'entrepreneur dans les années 1960, en achetant et en gérant des maisons de chambre et des maisons de repos en Ontario et au Texas. Dans les années 1980, il achète et devient éditeur de Contrast, un journal de la communauté noire de Toronto fondé en 1969. Ses articles mettent en lumière les diverses expériences des personnes noires à Toronto, qu'il s'agisse de résidents de longue date ou de nouveaux arrivants des îles des Caraïbes. En tant que président fondateur de la Black Business and Professional Association, BBPA, M. Jolly a promu l'égalité des chances pour les Canadiens noirs dans le monde des affaires, de l'emploi et de l'éducation. Il a généreusement soutenu diverses causes par l'intermédiaire de la BBPA, notamment en accordant des bourses à de jeunes Canadiens noirs prometteurs lors de la remise annuelle des prix Harry Jérôme. En 2001, Jolly a créé Flow 93.5, la première station de radio canadienne appartenant à des personnes noires, qui diffuse de la musique et des histoires de la communauté noire. La station fait la promotion d'artistes noirs émergents, offre des bourses aux jeunes provenant de communautés noires, organise des concerts gratuits et soutient Caribana, un festival célébrant la culture caribéenne à Toronto. Au fil des ans, Jolly a siégé dans de nombreuses organisations, notamment en tant que directeur du Festival international du film de Toronto, TIFF, gouverneur du YMCA de Toronto et membre du conseil d'administration de Surrey Play Center à Toronto. Ses activités communautaires incluent le Jamaican Canadian Association, le Black Action Defense Committee, Jane and Finch Concert Citizens, Harriet Tubman Games, Caribana. Il a reçu de nombreuses distinctions et récompenses, notamment le Toronto Book Award 2017 pour In the Black, My Life, le Raymond Change Award de l'Université of West Indies, le prix de reconnaissance d'un leader distingué de l'Université McGill, les médailles du Jubilé de diamant et d'or de la Reine Élisabeth II, le 2022 Order of Distinction, Jamaïca, et a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2020. La ville de Toronto a nommé une rue et un parc Jolly Way en son honneur. L'Université de Toronto et l'Université de Guelph lui ont décerné des doctorats honorifiques. Jolly poursuit ses activités philanthropiques et militantes, notamment en fondant un programme de petit-déjeuner au Cornwall College en Jamaïque, en parrainant la première équipe de football de garçons de moins de 12 ans à Regent Park, à Toronto, et en parrainant une école de base en Jamaïque fondée par sa mère. 5. Dan Philip. Dan Philip est l'un des piliers de la communauté noire de Montréal. Il a été président de la Ligue des Noirs du Québec pendant plus de 4 décennies et a continué à siéger au conseil d'administration de l'organisation en tant que président honoraire après sa retraite en 2020, défendant la cause de l'égalité et luttant contre la discrimination systémique. Fervent défenseur des droits civils, Philip a considérablement transformé la Ligue des Noirs grâce à son leadership. Tout au long de sa carrière, Philip a défendu la communauté noire et s'est souvent exprimé sur les questions de profilage racial et de brutalité policière. Il a également attiré l'attention sur le manque de représentation des membres de la communauté noire en politique et a fait pression pour que des réformes législatives soient mises en place afin de lutter contre la discrimination dont sont victimes les locataires noirs. Il a également défendu le programme d'égalité d'accès pour la sous-représentation des membres de la communauté noire dans le secteur public. Le talent de rassembleur de Philip lui a permis de renforcer la collaboration et le partenariat entre la Ligue des Noirs et d'autres groupes et organisations sociales au Québec, en particulier les communautés anglophones et francophones. Philip a été l'un des premiers au Québec à soutenir les efforts visant à mettre fin au contrôle de police discriminatoire dans les rues, qui ciblait souvent les minorités visibles et les populations autochtones. Il s'est efforcé d'améliorer les relations entre la communauté noire et la police en plaidant pour une plus grande responsabilité dans les cas de brutalité policière, notamment dans l'affaire de la mort par balle d'Anthony Griffin en 1987 et du passage à tabac de Richard Barnabé par la police en 1993. Il a également joué un rôle important dans la lutte pour la déségrégation de l'industrie du taxi à Montréal. Pour son engagement, Philip a reçu de nombreuses récompenses, telles que la médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada en 1992, le prix Rosa Parks en 2000 et le certificat de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, également en 2000. En 2019, Philip a reçu la médaille de la citoyenneté de l'Assemblée nationale pour la circonscription de Darcy McGee. En 2023, il a également reçu un certificat de reconnaissance de B'nai B'rith Canada pour son travail de promotion du dialogue entre les communautés noires et juives. Vous écoutez « Moi de l'histoire des Noirs, personnalité remarquable », un texte de patrimoine canadien paru sur le site du gouvernement du Canada. 6. Dr. George Fields. Dr. George Fields était un psychologue noir dévoué à sa profession et à la communauté qu'il servait en Ontario. Il a appris très tôt l'importance de la famille, de liens communautaires forts et d'une bonne éducation. Lui et ses frères et sœurs ont appris qu'avec du travail et de la détermination, les difficultés pouvaient être surmontées afin que les familles d'immigrants puissent se construire une vie riche. Ces valeurs leur ont été inculqués par son père, Isaac, qui a été le premier Canadien noir à recevoir l'Ordre du Canada et sa mère, Mary Alda Fields. Dr. Fields est né à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il est diplômé du King's College à Halifax et de l'Université Dalhousie, où il a obtenu une maîtrise en psychologie clinique. Après avoir obtenu sa maîtrise, Dr. Fields a étudié en Angleterre, où il a obtenu un doctorat en psychologie sociale clinique à l'Université de Londres. C'est à Londres qu'il a rencontré sa femme, Aklema. Dr. Fields est retourné à Sydney en 1963, où il a dirigé une clinique d'orientation pour enfants. Il a ensuite rejoint le London Board of Education en tant que psychologue consultant. Plus tard, il est devenu le psychologue en chef du London Board, poste qu'il a occupé pendant 22 ans. Il a toujours dirigé le département avec une vision claire, un haut niveau d'intégrité et un engagement inébranlable envers l'importance d'améliorer le bien-être des élèves. Lorsqu'il travaillait au London Board, il a contribué à guider de nombreuses innovations, notamment les équipes scolaires, le processus d'identification précoce, le projet de compétences sociales et l'équipe d'intervention en cas d'événement tragique. Dr. Fields a soutenu de nombreux élèves tout au long de sa carrière, en leur donnant des conseils avisés, un soutien indéfectible et des encouragements qui ont fait une différence durable dans leur vie. Dr. Fields a enseigné à la Western University et a siégé au conseil d'administration de plusieurs grands services de santé mentale à London. En tant que psychologue, il a été un pionnier dans la lutte contre le bizutage parmi les athlètes et les équipes de l'Association de hockey de l'Ontario. En outre, Dr. Fields a été invité à animer des ateliers de psychologie dans plusieurs provinces du pays et a passé 2 ans à enseigner la psychologie à l'Université des Indes occidentales à Trinidad. Son travail en faveur de la communauté noire de London mérite d'être souligné. Il a travaillé de manière désintéressée pour de nombreux membres de cette communauté qui ont sollicité ses conseils et son aide pour des problèmes familiaux. Il a également été appelé à aider nombre d'entre eux qui subissaient un racisme systémique dans les systèmes communautaires londoniens. Dr. Fields s'est engagé à développer la profession de psychologue en Ontario. Il a joué un rôle dans la création de l'Ordre des psychologues de l'Ontario, l'organe directeur des psychologues de la province. Son leadership inspirant a conduit à la mise en place de services de psychologie au sein du London Board of Education dans les années 1970. Sa contribution à l'avancement de la psychologie en Ontario n'est pas passée inaperçue. En 1990, il a reçu le prestigieux prix Bia Wickett pour ses contributions dans le domaine de l'éducation et de la santé mentale. En 1995, le prix Frank Brennan lui a été décerné pour ses contributions en faveur des enfants et des familles en crise à London. En 1996, il a reçu le Distinctive Service Award décerné par la London and Region Psychological Association. À la retraite, Dr. Fields a continué à aider les autres. Il a toujours aimé le sport, notamment le golf, le tennis et le curling. Il a combiné son amour du sport et ses compétences en psychologie pour faire de la consultation privée et du conseil. Il aimait aussi la musique. Il a été l'un des membres fondateurs de la chorale de Forest City. Il était également croyant. Dr. Fields était un membre actif de l'église anglicane St. John's de Devine à Arva. De nombreux dimanches matins, il pouvait être trouvé en train de faire des lectures et des prières dans le cadre du service du matin. Dr. Fields est décédé en 2021 à l'âge de 85 ans. Cependant, son héritage ne sera pas oublié par les élèves avec lesquels il a travaillé, par les membres de la communauté noire et par son personnel au London Board of Education. Il restera dans les mémoires comme un homme à la personnalité attachante qui ne recherchait que le meilleur chez les autres. 7. Brian et Shannon Prince. Brian et Shannon Prince sont des descendants de sixième génération de la colonie historique d'Elgin et de la mission de Buxton, continuant à cultiver les terres où leurs ancêtres ont trouvé la liberté il y a plusieurs générations. Ils ont passé leur carrière à préserver et à célébrer l'histoire des Noirs dans leur ville natale de North Buxton et plus largement au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Ils ont travaillé avec le Buxton National Historic Site and Museum, qui se consacre à la collecte, à la préservation, à l'exposition et à l'interprétation d'objets historiques liés à la colonie de Buxton depuis sa fondation jusqu'à la fin du 19e siècle. Shannon a été conservatrice du musée de 1999 jusqu'à sa retraite en 2023, et Brian est membre du conseil d'administration du musée depuis plus de 40 ans. Brian et Shannon Prince sont membres de diverses organisations et participent à des initiatives au Canada et aux États-Unis, notamment l'Ontario's Underground Railroad Alliance, l'African Canadian Heritage Network, le Harriet Tubman Institute de l'Université York, ainsi que des projets conjoints avec l'Université Millersville en Pennsylvanie et le Conseil consultatif de Chatham-Kent Tourism. De plus, ils ont donné des conférences sur l'histoire des Noirs et sa préservation dans différentes universités au Canada et aux États-Unis. Brian est l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire du chemin de fer clandestin et des esclaves qui se sont échappés au Canada. Shannon a joué le rôle de son arrière-arrière-grand-tante, Mary Ann Shadd, dans une production théâtrale décrivant les efforts infructueux de John Brown pour mettre fin à l'esclavage. Brian et Shannon Prince ont été nommés membres de l'Ordre du Canada en 2023. 8. Rosemary Sadler. Rosemary Sadler est une militante de la justice sociale, une chercheuse, une écrivaine, une consultante en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et une conférencière internationale sur l'histoire des Noirs, la lutte contre le racisme et les femmes. Née et élevée à Toronto, Mme Sadler est titulaire d'une licence en sociologie de l'Université York et d'une maîtrise en travail social de l'Université de Toronto. Elle est titulaire de deux doctorats honorifiques, l'un du Ontario College of Art and Design University et l'autre du Ontario Institute for Studies in Education de l'Université de Toronto. Elle a été présidente du Ontario Black History Society de 1993 à 2015, période pendant laquelle elle a été le catalyseur de la commémoration du mois de février comme mois de l'histoire des Noirs à tous les niveaux de gouvernement et la force motrice de la proclamation du 1er août comme jour de l'émancipation au niveau municipal en 1995, au niveau provincial en 2008 et au niveau national en mars 2021. En tant qu'éducatrice, Mme Sadler a élaboré ou contribué à l'élaboration de programmes d'études, de ressources et d'expositions nationales en lien avec les Afro-Canadiens. Elle est également une écrivaine prolifique. Mme Sadler a écrit 8 livres sur l'histoire des Afro-Canadiens, dont l'un a été classé parmi les meilleurs livres au Canada en 2024, et a conseillé, écrit ou coproduit des films et des émissions de télévision. Son dévouement à l'éducation et à la justice sociale lui a valu plusieurs prix, dont l'Ordre de l'Ontario, le prix du Jubilé de Diamant de la Reine, le William Peyton Hubbard Race Relations Awards, le Harry Jerome Award et le Daniel G. Hill Human Rights Awards for Lifetime Achievement décerné par la Commission ontarienne des droits de la personne. L'engagement de Rosemary Sadler à préserver et promouvoir l'histoire des Noirs tout au long de sa vie, continue d'enrichir et d'éduquer les générations futures. 9. Yvonne Squires. Yvonne Squires est une militante dévouée et passionnée de l'équité et de la justice. Elle a immigré au Canada de Kingston, en Jamaïque, en 1967, apportant un profond sentiment d'engagement envers la justice, l'équité et la communauté. Au cours de ses 40 ans de carrière dans la fonction publique fédérale, Yvonne a laissé une empreinte indélébile sur le gouvernement du Canada, notamment grâce à son travail à l'Agence du revenu du Canada et à l'Agence des services frontaliers du Canada. Son parcours dans la fonction publique s'est caractérisé par une défense inébranlable des plus vulnérables, en particulier des communautés racisées, et par un dévouement inlassable à la promotion de l'équité dans tous les aspects de son travail. Défenseur passionné des personnes âgées de Brampton, Yvonne s'est efforcée de faire entendre leur voix et de veiller à ce qu'elles reçoivent le soutien et les services dont elles ont besoin pour s'épanouir. Son approche a toujours été fondée sur l'intégrité et la défense des faits, avec un engagement inébranlable en faveur de l'équité et de l'égalité. Le leadership d'Yvonne s'est étendu à son rôle de présidente de la section de Toronto du Customs and Excise Union, où elle s'est efforcée de défendre les droits de ses collègues tout en veillant à ce que les principes de justice et d'équité soient respectés sur le lieu de travail. Sa contribution exceptionnelle à la fonction publique n'est pas passée inaperçue. Yvonne a été reconnue par tous les niveaux de gouvernement, ainsi que par plusieurs premiers ministres, pour ses services exceptionnels et son dévouement au service public. En dehors de sa vie professionnelle, Yvonne est fière d'être mère de 2 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. L'œuvre de sa vie continue d'inspirer ceux qui l'entourent, reflétant sa croyance inébranlable dans le pouvoir de la défense, de l'équité et de la poursuite d'une société plus équitable. C'était « Moi de l'histoire des Noirs, personnalité remarquable », un texte de Patrimoine canadien paru sur le site du gouvernement du Canada.
Claude Chalifou et Yvon Lafrance, un 5e anniversaire de couple pour cette Saint-Valentin. Un texte d'André-Constantin Passiour paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Le 13 février 2025 marquera pour Yvon Lafrance, fondateur du mythique club Limelight, et Claude Chalifou, son conjoint, leur 50e anniversaire de vie commune. Comment ce couple a-t-il résisté autant aux aléas de la vie? On a discuté avec eux pour le savoir. Maintenant d'un âge avancé, Claude Chalifou et Yvon Lafrance forment un couple assez exceptionnel pour sa longévité. Dans la société d'aujourd'hui où l'ego semble très souvent l'emporter facilement et que Cupidon est relégué prestement. Enfin, presque. Les deux hommes se sont rencontrés au Limelight. Claude était un client de la discothèque. « Puis il est devenu mon amant et ensuite mon conjoint », explique Yvon Lafrance. « Je l'ai engagé comme employé par la suite et on a travaillé ensemble. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait au club. Il a touché à tout. Beaucoup de gars voulaient être mon amant à l'époque, mais j'étais avec Claude et c'était très bien comme ça. » Situé au centre-ville, au 1254 rue Stanley, le Limelight a été de la fin 1973 aux années 90 une légendaire discothèque. C'est là qu'a œuvré, de 1973 à 1981, le grand Manitou du disco montréalais, le DJ Robert Ouimet, élu meilleur DJ nord-américain par le magazine Rolling Stone en 1976, puis DJ de l'année en 1977 par le magazine Billboard. Le concept du Limelight a servi de référence en matière de décor, de style musical et d'ambiance luminaire pour plusieurs établissements du genre en Amérique du Nord dans les années 1970 à 1980, et a permis de définir un style de composition et de mixage musical qui persiste à ce jour. D'une certaine manière, le Limelight de Montréal a changé la donne. Yvon et Claude ont donc travaillé ensemble, vécu ensemble et voyagé ensemble. Nous allions à Fire Island. C'était un endroit merveilleux. Il y avait beaucoup de gars célibataires, mais nous étions là ensemble et ça finissait là. Qu'est-ce qui a fait que cela a pu perdurer dans le temps et traverser 5 décennies? Leur a-t-on demandé. Ce n'est pas si compliqué que ça, la vie de couple. Il ne faut pas réagir émotivement à tout. Il faut prendre les choses plus rationnellement. Et les deux ne peuvent pas avoir raison tout le temps, estime Yvon Lafrance. Il faut faire des compromis et mettre de l'eau dans son vin. Mais dans la réalité, ça n'a pas été si difficile que ça pour nous. La base, je le dis instinctivement, c'est de vivre et de s'accepter mutuellement et que les deux le comprennent et le pratiquent. Comme ça, nous n'avons jamais eu de conflit majeur dans notre vie. On peut discuter de quelque chose, ne pas être entièrement d'accord, mais on peut atteindre le même but par des chemins différents. Je crois que c'est ça, la recette du bonheur de la vie à deux. Il faut se comprendre et dialoguer. Après 50 ans, je crois que c'est une recette valable et elle fut viable pour nous. L'époque du Limelight. On ne peut évidemment dissocier ce couple du bar qui a connu un succès international, et ce bien avant le Studio 54 de New York. Les plus jeunes LGBTQ+, ont peut-être entendu parler de ce bar ou peut-être pas. Un club qui attirait des vedettes telles que Gloria Gaynor, James Brown et Grace Jones, pour ne nommer que celles-ci. C'était la belle époque du disco, des parties, des soirées où les gens s'y présentaient déguisés pour se distinguer des autres. Yvon Lafrance en aura été le propriétaire, pendant 10 ans, de septembre 1973 jusqu'en 1983, et nous sommes encore propriétaires de la marque Limelight. Le couple a aussi possédé la discothèque Le Jardin, avec Jean Laflamme en tant que directeur, le piano-bar Hollywood, avec Régent Tremblay comme pianiste résident, sans oublier également le populaire Buds, avec comme directeur feu Gaston Morin, rappelle Yvon Lafrance. Pour Claude Chalifoux et Yvon Lafrance, le Limelight, avec sa centaine d'employés, a été une aventure extraordinaire. Ils ont été côte à côte pour gérer le bar, soir après soir, et s'épauler l'un l'autre dans les diverses tâches et activités. Ce n'était pas toujours facile à l'époque. Il n'y avait pas la même liberté et mixité qu'aujourd'hui. Je voulais un Limelight ouvert à tout le monde. Les gays, les femmes, les hétéros, tout le monde était bienvenu. C'était un endroit où les gays pouvaient se sentir en sécurité, et c'était important pour nous. Je voulais montrer qu'à Montréal, qu'au Québec, il n'y avait pas de problème entre les gays, les hétéros et les femmes, etc., que tout le monde pouvait s'y rencontrer aisément et sans friction, souligne Yvon Lafrance. Le club a été vendu à d'autres investisseurs en 1983. Ils l'ont opéré jusque dans les années 1990, mais ce n'était plus la même chose, se désole Claude Chalifoux. Parfois, les gens disent n'importe quoi, mais moi je sais qu'il y a eu 3,5 millions de clients au Limelight dans les premiers 10 ans parce que ces gens-là ont payé leur entrée. Il y a eu plus de personnes que ça dans les faits, avec les invités, oui, mais le chiffre exact des entrées payantes est 3,5 millions, indique fièrement Yvon Lafrance, qui se démenait comme un diable dans l'eau bénite pour renouveler à chaque fois les systèmes de son et d'éclairage, les décors, etc. Nous étions très avant-gardistes pour l'époque. Nous voulions avoir ce qui était le plus nouveau, le meilleur son, la meilleure ambiance. Nous avions entendu dire qu'il se préparait quelque chose pour 2025, qu'un projet Limelight était en préparation. Effectivement, un ou des événements pourraient voir le jour, en rappel du limelight et de son époque marquée par le disco et le DJ résident Robert Ouimette, décédé il y a 3 ans. Nous serons partenaires de quelque chose, d'un événement, qui pourrait très bien avoir lieu cette année. Mais comme rien n'est encore signé, on ne peut pas en parler encore, spécifie Yvon Lafrance. Je précise toutefois qu'il ne s'agit pas de l'ouverture d'un bar. Le nom Limelight est, encore aujourd'hui, très sollicité par beaucoup de gens, continue-t-il, signe que l'établissement a réellement marqué plusieurs générations qui l'ont connu. Il nous faut protéger sa réputation internationale. On ne peut pas prêter le nom à qui que ce soit sans savoir de quoi il s'agit au juste. Il faut faire bien attention, d'où le fait qu'on ne peut pas annoncer quoi que ce soit à ce stade-ci. On est encore à l'étape des discussions en ce moment. À la retraite dans leur maison de Rosemère, Yvon et Claude sont fiers de ce qu'ils ont accompli et de la longévité de leur amour et de leur union. Une relation qui, espèrent-ils, servira d'exemple pour plusieurs jeunes. Le couple songe d'ailleurs à écrire un livre, une biographie, sur leur vie passionnante, sans oublier, bien entendu, leurs accomplissements au Limelight. C'était Claude Chalifoux et Yvon Lafrance, un 5e anniversaire de couple pour cette Saint-Valentin, un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
La gastronomie nordique, un vivier de saveurs et de créativité. Un texte de Marie Mercier, paru le 15 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. La cuisine nordique suscite des images évidentes de gravlax, roulé à la cannelle et confiture d'érelle. Et si l'on parlait plutôt de terre, de mer, de tradition, de fermentation et d'innovation? La cuisine, tout au nord, s'enracine et vit au gré de la nature, contre mais aussi avec vents et marées. Ou quand des territoires bruts et puissants façonnent autant de plats typiques que de nouveaux paysages culinaires, à l'engagement écologique inspirant. Et si l'on revenait aux origines? Les boulettes de viande suédoise, queue de bullard, l'incontournable gravlax, les tartines danoises ou bien le fiskesuppe, soupe de poisson norvégien. Lorsque l'on évoque les mets des pays tout au nord, il y a certaines évidences, des points communs à chaque région, et quelques différences aussi. À cela, rien d'étonnant. La Scandinavie, stricto sensu, Danemark, Norvège et Suède, la Finlande, l'Islande, sans oublier les îles Féroé. Tous ces territoires nordiques s'étirent depuis d'autres frontières, s'étendent entre terre et mer. Si la Norvège est réputée pour son saumon et la Suède pour ses harengs marinés, si les saveurs finlandaises dévoilent des influences russes et baltes, si le skyr islandais n'est plus un secret insulaire, il y a un fil commun à toutes ces cuisines. La nature. Brute, maritime, venteuse, parfois un peu hostile. Une nature froide que les assiettes réchauffent au rythme des saisons, que l'on pêche, que l'on cueille ou que l'on conserve. Une nature qui a écrit l'histoire des goûts et des saveurs de ces contrées. Dans tout cela, les Vikings n'y sont pas pour rien. Afin de faire face à des conditions rigoureuses, ils ont développé chasse, culture et techniques culinaires adaptées. Viande de renne séchée, pain d'orge, fromage blanc épais, poisson mariné ou fumé, cuisson au feu de bois, aneth et autres herbes. La nourriture viking a laissé de fortes empreintes sur les traditions culinaires européennes, notamment dans la péninsule scandinave. Citons en exemple le pølse danois, un type de hot dog, le fårikål norvégien, un ragoût de viande et de choux, ou le pitpalt suédois, des boulettes de pommes de terre farcies de viande. Des produits essentiels et beaucoup de bienfaits. À première vue, quand on pense boulettes, pommes de terre, confiture d'érelle et roll-mop, on ne se dit pas que tout cela fait dans la légèreté. Pourtant, si la cuisine nordique n'a pas les caractéristiques solaires d'autres gastronomies, elle ne manque pas d'intérêt. Parmi eux, celui de nourrir le corps avec générosité et d'offrir des ingrédients aux qualités nutritionnelles incontestables. Le poisson, avec tout un tas d'oméga, les baies sauvages et leurs antioxydants, ou encore le seigle que l'on retrouve dans les pins. En Europe du Nord, l'eau n'est jamais bien loin. S'il est aujourd'hui nécessaire de remettre en question les impacts de la pêche de masse, ces régions septentrionales se sont développées grâce aux richesses des mers. Saumon de l'Atlantique, hareng de la Baltique, cabillaud arctique typique du littoral norvégien que l'on nomme skrei, ou morue lorsqu'il est consommé séché, mais aussi truite arc-en-ciel, aigle fin, maquereau, etc. Les assiettes ici respirent l'iode. Côté viande, la Finlande serait le pays nordique qui en consomme le plus, mais du Danemark à la Norvège, en passant par l'Islande, ce ne sont pas les propositions carnées qui manquent. Leur particularité? Des mets à base de gibier, de rennes notamment, par exemple le Resdursteak, un rôti de renne typique des grandes occasions en Norvège qui s'accompagne de pommes de terre et légumes racines. Sur ces terres poussent le navet, les betteraves, le rutabaga ou encore le céleri rave. Et puis, il y a les baies sauvages en abondance que les Scandinaves dégustent fraîches dans les desserts ou toute l'année sous forme de confitures et de sirops. Myrtilles et érelles ou canneberges accompagnant les plats de viande, mûres, groseilles, framboises, acidulées, sucrées, juteuses, les baies apportent saveur et surprise. La nouvelle vague nordique. Longtemps considérée comme sommaire et assez linéaire, la gastronomie nordique est depuis quelques années le vivier d'une immense créativité, toujours dictée par la nature et le terroir. Bien plus que de cuisine, on parle ici d'un art de vivre, enraciné dans un environnement aux rares exigences saisonnières. Ces dernières, tissant des traditions et techniques culinaires telles que le fumage, le séchage ou encore la fermentation qui permettait de traverser l'âpreté des hivers, sont passées d'ancestrales à sources d'inspiration contemporaines. Chef de file de la nouvelle scène culinaire nordique et véritable maestro de la fermentation, René Redzepi, situé à Copenhague et ayant déjà remporté 5 fois le titre du meilleur restaurant au monde, son Noma restera en activité jusqu'à la fin 2024 avant de se transformer en Noma 3.0, un laboratoire géant d'innovation culinaire. Dans le sillage de ce chef engagé pour une cuisine écologique, durable et inventive, au plus près des saisons et des producteurs locaux, de nombreux talents ont émergé. D'Oslo, au comté de Jämtland, en Suède, avec la célèbre table Fäviken de Magnus Nilsson, en passant par les étonnantes îles Féroé, les chefs nordiques ont constitué un mouvement novateur qui révolutionne à la fois la cuisine, mais aussi le lien entre cette dernière et une conscience environnementale croissante. Preuve en est, le palmarès du Bocuse d'Or Europe 2024, dont les 3 places du podium sont occupées par le Danemark, la Suède et la Norvège. Vous écoutez La gastronomie nordique, un vivier de saveurs et de créativité, un texte de Marie Mercier, paru le 15 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Cartographie culinaire des pays nordiques. Premier arrêt, la Suède. Si tout le monde connaît les köttbullar, boulettes de viande, le gravlax, saumon mariné dans un mélange de sel, sucre, poivre et aneth, ou encore les cannelbullar, le très régressif escargot à la cannelle, Avez-vous déjà dégusté une nersopa? Cette soupe de pois cassés additionnée de morceaux de porc est traditionnellement servie le jeudi avant des pancakes à la crème fouettée et à la confiture. Un solide menu en prévision du jeûne que les catholiques pratiquaient d'ordinaire le vendredi. Il existe par ailleurs deux types de crêpes de pommes de terre très populaires. En version fine, les roraka, et en plus épaisse, les ragmunk, sur lesquels sont déposés lard croustillant et RL. Une odeur et un goût qui réveillent. Le surströmming est une spécialité à base de harengs fermentés apparue au XVIe siècle afin de pallier une pénurie de sel qui, jusqu'alors, permettait de conserver ces petits poissons. Enfin, les rexmurgo, sandwich ouvert à la crevette, se déniche un peu partout et célèbre le goût de l'été en Suède. Fjord et eau profonde oblige, en Norvège, les saveurs sont davantage iodées. Les locaux raffolent des fruits de mer et du célébrissime saumon qui, dès le petit déjeuner, se consomme à toutes les sauces. Mais pas que. Chaque hiver, le skrei, cabillaud, norvégien, migre vers le nord. Pêché de janvier à avril, il est séché au vent et au soleil, notamment dans l'archipel des Lofoten, pour devenir ensuite l'un des grands classiques de la cuisine arctique, le turfisk ou stockfish. Autre expérience à vivre en Norvège du Nord. La pêche dans les eaux glacées de la mer de Barents et la dégustation du crabe royal. Poisson fermenté, souvent de la truite ou du saumon, le rackfisk est servi en tranches avec de l'oignon rouge cru, de la crème aigre et du lefse, un pain concocté à base de pommes de terre, lait ou crème fraîche. Viande séchée à foison qui se consomme avec du pain et de la bière, par exemple les saucisses Fenalor, soit de la viande d'agneau marinée et séchée, ragoût de renne fin-bif ou encore foricole, l'emblématique ragoût de mouton avec choux et pommes de terre. Toujours, les carnivores ne sont pas en reste. Last but not least, le buernost ou fromage brun. Une spécialité à pâte brune et au goût caramélisé, servie sur du pain frais ou des gaufres avec de la confiture de framboise. Qui dit Danemark dit smørrebrød. Ces tartines de pain de seigle beurrées, puis garnies d'un millimélo d'ingrédients allant du poisson fumé au fromage en passant par des légumes croquants. Autres immanquables du pays, les slids. Harengs marinés au vinaigre ou à la moutarde et l'anguille roulée farcie aux oignons hachés, l'un des plats les plus anciens du Danemark. Impossible de faire l'impasse sur le pølse, le hot-dog danois, véritable institution culturelle. Sa particularité? Être préparé avec une saucisse de porc gourmande et généreuse. Retenez bien aussi ce nom, même s'il est un peu long. Rugrød med fløde, soit un dessert traditionnel composé d'une compotée de fruits rouges et servi avec de la crème épaisse. Quant au risalamand, dessert traditionnellement associé aux fêtes de fin d'année depuis le 19e siècle, il suffit de se pencher sur sa recette pour saisir sa popularité. Un riz au lait, de la poudre d'amande, de la vanille, de la crème chantilly, et un coulis de fruits rouges préparé à la maison. Un délice, donc, que les enfants placent près du sapin pour attirer le Père Noël. Chacun ses coutumes, celle-ci est terriblement gourmande. Un petit tour en Finlande, où l'on découvre les Karjalan piraka, des pâtisseries de la région de Karélie, réalisées à partir de tartelettes au seigle garnies au porridge de riz. Basique de l'alimentation locale, le pain au seigle, ruislepaï, s'invite sur toutes les tables, du matin au soir, et est souvent accompagné de fromage, beurre et saumon fumé. Les amateurs de myrtilles trouveront leur bonheur avec une part de Mustica Piraca, une savoureuse tarte qui sublime la cueillette estivale. À 2000 kilomètres de là, au-delà de la mer de Norvège, l'Islande a elle aussi ses indispensables, ceux que l'on a la sensation de connaître depuis toujours, ceux qui nous étonnent encore. Au petit déjeuner, avec des fruits frais, le skyr est à l'Islande ce que le fromage blanc est à la France. Moins communs sont le kao kari, requin fermenté et séché, et le sveo, une tête de mouton bouillie servie avec des rutabagas et des pois. Et puis, il y a cet archipel, à mi-chemin entre tout cela et l'Écosse. D'inconnus, les îles Féroé sont devenues ces dernières années une destination de choix. Et la cuisine n'y est pas pour rien. Ici, l'hostilité des éléments a créé des goûts plus qu'étonnants. Ceux du raïs pharyngien, un processus de séchage à l'air libre et salin des poissons et de la viande de mouton. En bouche, le goût est brut et s'apparente à l'umami, la cinquième saveur que l'on retrouve entre autres dans les protéines fermentées. Sur ce bout du monde, en pleine mer, la rareté des ingrédients a développé un sens de la créativité où algues et herbes changent la donne et où la simplicité s'incarne dans des plats comme le riz au mave, une soupe de poisson concoctée avec des poissons locaux, des oignons, des épices et des pommes de terre. À boire aussi. Il y a celles avec lesquelles on se réchauffe, celles pour trinquer. Hormis la bière, que l'on boit au Danemark depuis 5000 ans, l'aquavit ou eau-de-vie, distillation de pommes de terre ou de céréales avec des épices, est servie lors des fêtes ou en digestif. Vin chaud épicé avec de la cannelle, du clou de girofle, du gingembre et de la cardamome, le glögg suédois, accompagne les longs mois d'hiver. Quant au café, il s'inscrit dans la coutume suédoise du fika, qui consiste à partager une tasse et une gourmandise avec ses amis. Bien plus qu'une pause café, c'est un instant de retrouvailles et d'échanges envisageable à tout moment de la journée. C'était La gastronomie nordique, un vivier de saveurs et de créativité, un texte de Marie Mercier, paru le 15 avril 2024 dans Voyageurs du Monde.